Bonjour, vous vous demandez sûrement ce que veut dire HPI. On entend pas mal, mais savez-vous ce que c'est ? Ce que cela signifie ? Les élèves HPI vont vous répondre.
EHP,
HPI,
EIP,
HPS,
Zèbre.
EHP signifie élève à haut potentiel. HPI signifie haut potentiel intellectuel. EIP, élève intelligent précoce. HPS, haut potentiel surdoué. Les zèbres est un surnom d'HPI.
Voici les caractéristiques des EHP. Les EHP ont une façon de réfléchir différente. Le haut potentiel définit une intelligence, non pas supérieure, mais qui permet de réfléchir plus rapidement. Les caractéristiques souvent recensées chez les EHP sont un esprit très vif dès la naissance, réactif à l'environnement, animé d'une curiosité intellectuelle très précoce, une vaste gamme de champs d'intérêt à plusieurs passe-temps. Généralement, ils aiment les activités complexes, résoudre les problèmes de manière originale. Ils ont une richesse du vocabulaire, une construction rapide de phrases complexes, une imagination hors du commun, une capacité de mémorisation importante, la rapidité dans le traitement d'informations, le perfectionnisme, chez certains des troubles du sommeil, de l'instabilité psychomotrice, pseudo-hyperactivité, une autonomie dans l'apprentissage et apprend facilement et rapidement. Une mémorisation facile et rapidité de raisonnement. Parfois, ils se perdent dans les détails, et bien d'autres.
Les élèves à haut potentiel, EHP, font partie des élèves à besoins particuliers. Un élève excellent n'est pas forcément à haut potentiel, et un élève à haut potentiel n'est pas forcément un élève excellent. La plupart des élèves à haut potentiel ne rencontrent pas de difficultés particulières. Certains peuvent présenter des difficultés psychologiques ou scolaires masquées par le haut potentiel. Un élève à haut potentiel peut être brillant, moyen ou en difficulté d'apprentissage. Un élève brillant peut être à haut potentiel ou ne pas l'être.
Que savons-nous du cerveau HPI ? La façon dont s'exprime le HPI dépend essentiellement de l'histoire de vie des personnes concernées, de l'environnement dans lequel elles évoluent et de leur personnalité propre. Le haut potentiel intellectuel se traduit par une anomalie et un fonctionnement particulier au niveau cérébral. Ceci permet de comprendre l'efficience rare du cerveau du HPI dans certains domaines caractéristiques. Différentes études réalisées à l'IRM montrent une architecture cérébrale spécifique chez le HPI. Au niveau de la matière grise, une densité de neurones plus importante. Ces zones sont responsables des fonctions exécutives, de la mémoire de travail et de l'attention. Au niveau de la matière blanche, des axones plus larges avec plus de connexions. On peut alors parler de cerveau à haut débit. Au niveau des hémisphères, la coopération et l'interaction est ajustée selon les tâches. Au niveau du fonctionnement global, l'activité de repos est plus intense. Cette réalité neurophysiologique s'expliquerait par une vitesse de développement plus rapide dans certaines zones cérébrales in utero. Le haut potentiel serait héréditaire, acquis à la naissance, son développement serait ensuite influencé par l'environnement et des facteurs individuels qui favoriseront ou non les compétences intellectuelles associées. Encore une fois, un très grand nombre de facteurs va influencer la façon dont le HPI s'exprime, d'où l'impossibilité de dresser un portrait robot ou une liste de caractéristiques exhaustives au HPI. Il est donc important de prendre en compte le haut potentiel intellectuel, sans réduire la personne à son fonctionnement cognitif.
L'hypersensibilité chez les EHP. L'idée la plus répandue chez les personnes surdouées est leur hypersensibilité. Elles ressentiraient les émotions de façon plus intense et auraient des sens plus développés que la moyenne. Ce que les enfants standards ne voient pas, nous les voyons comme à travers un microscope. C'est ça la sensibilité. D'ailleurs, quand nous étions plus petits, nous n'avions pas des moments où les étiquettes nous grattaient, où nous n'aimions pas les vêtements avec des coutures parce que nous ne les supportions pas. Vous voyez, notre sensibilité, nous l'avons depuis toujours. Tout comme les intuitions, l'empathie, les sensations de déjà vu, déjà entendu et le besoin de contrôler, L'hypersensibilité fait partie du lot de l'enfant haut potentiel.
En plus, quand on est préadolescent et adolescent, et ben ça peut être particulièrement gênant de se retrouver en groupe et que la moindre remarque de l'autre nous blesse. Flaubert disait « Ce qui érafle les autres me déchire ». Cette sensibilité s'apprivoise. Et pour cela, il faut mieux la connaître. L'hypersensibilité des cinq sens, c'est quoi ? L'hyperesthésie est une caractéristique des personnes surdouées et hypersensibles. Il s'agit d'une sensibilité au niveau des cinq sens, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Par exemple, plusieurs signes que vous êtes hypersensible. Hyperesthésie tactile. On se sent vite agressé quand on nous touche, et certaines sensations anodines sont épouvantables. Par exemple, la couture des chaussettes vous fait extrêmement mal et vous êtes obligé de les retourner, de les porter à l'envers. Hyperesthésie visuelle. Vous êtes souvent ébloui par la lumière, même quand, lorsqu'il y en a peu. Moi aussi. Si vous me croisez un jour, il est fort probable que je porte des lunettes de soleil. Hyperesthésie auditive. Quand je vais dans une grande ville, j'ai des migraines énormes à cause de la pollution sonore de la ville. J'adore aller chez mes grands-parents à la campagne et écouter le silence de la nuit. Il faut apprendre aux enfants et aux adolescents à haut potentiel à fabriquer une carapace. La sensibilité sera toujours là, mais on pourra toujours essayer de la contrôler. Exemple, par le yoga, par la méditation.
Les différents problèmes que peuvent rencontrer un EHP. Presque comme un TOC, chaque mot, chaque virgule, chaque geste, etc. sera analysé. Ces actes, aux airs banals, génèrent chez les EHP une vraie réflexion. Ce handicap se décuple souvent à l'adolescence. Cette période, déjà très difficile, est un vrai calvaire. Le zèbre ado cherche et découvre des traits de personnalité, des capacités, des relations, etc. Entre mutilation, faux self, stress et anxiété, la plupart de nos confrères jonglent entre les émotions. Chez certains cas, il n'y a pas de juste milieu, comme le dit Anonyme.
Chez moi, c'est tout ou rien. Lorsque je suis en colère, je ne le montre pas. Mais je pourrais exploser, frapper dans les murs. Mais à l'opposé, les événements qui enragent d'autres ne m'atteignent pas. Je ne peux pas voir le verre à moitié plein ou vide. Soit il est à ras-bord, soit il est à sec.
Au-delà de tout ce qui a été dit, le « je ne le montre pas » témoigne d'un manque crucial de communication avec les autres. Pour qu'une relation normale puisse être établie, il faudrait prendre le temps de la construire, ensemble, que ce soit une relation amoureuse, familiale ou amicale. Le problème, les zèbres veulent tout faire trop vite. Ils survolent les informations cruciales et oublient de se consacrer à l'expérience sur le terrain, l'expérience humaine. D'autres tomberont à l'eau et permettront à d'autres de s'améliorer. L'échec est donc inévitable.
Authenticité, justesse, vérité. Voilà ce qui anime le haut potentiel, et pourtant lui-même a compris qu'il devait porter un masque. Tout du moins, quand il a compris que son fonctionnement est différent des autres. Le HPI a souvent déjà entendu et s'est dit à lui-même « Tu dois entrer dans le cadre ». Le faux self est un mécanisme d'adaptation qui consiste à modifier son comportement et s'éloigner temporairement de son vrai soi pour s'adapter à une situation. Bien qu'il soit nécessaire, les conséquences d'un excès de faux self peuvent être dévastatrices, surtout pour les hauts potentiels. En effet, l'incompréhension de leur fonctionnement les amène souvent à se suradapter pour se fondre dans la masse et passer inaperçus. Groupe social, scolarité, famille, s'éloignant de ce qu'ils sont vraiment. Le faux self devient omniprésent et une sensation d'imposture et de vide envahit petit à petit leur quotidien.
Bonjour, je m'appelle Léo, je suis un élève de 5e au collège Marcel Goulette qui fait partie du dispositif EHP depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, je vais interviewer Lee sur qu'est-ce qu'un élève EHP.
Donc bonjour, je m'appelle Lee, je suis en 5e au collège Marcel Goulette et moi aussi dans le dispositif EHP depuis le début de l'année.
Bonjour Lee, que peux-tu nous dire sur les élèves EHP ?
Les élèves EHP ont un mode de fonctionnement intellectuel différent qui peut avantager ou désavantager l'apprentissage, la psychologie de l'élève et ont aussi parfois une hypersensibilité.
Est-ce que beaucoup d'élèves sont EHP ?
Non, au contraire, cela concerne 2 voire 3% de chaque classe d'âge, donc très peu, et ils sont parfois très durs à repérer.
À quoi sert la prise en charge EHP au collège ?
La prise en charge des élèves EHP au collège sert à rencontrer d'autres élèves soi-disant comme vous, s'exprimer auprès des professeurs faisant l'atelier qui vous aideront durant votre parcours scolaire.
Maintenant, peux-tu nous donner des conseils aux élèves EHP qui nous écoutent ?
Premièrement, en parler à ses parents ou au professeur du collège de sa différence ou des remarques faites par les camarades et par les enseignants. 2. Ne pas se sous-estimer, comme par exemple se dévaloriser, se trouver nul, inférieur, donc pas EHP. Et troisièmement, se rediriger vers d'autres élèves EHP pouvant, eux, vous comprendre et vous aider.
Merci à toi de nous avoir éclairé sur l'élève à haut potentiel et de nous avoir donné conseils et astuces.
Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés et
à bientôt.